Bonjour Emmanuel, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Alors, pour plusieurs raisons, parce que tu as sorti un bouquin, tu as monté un institut, et aujourd'hui, en fait, tu vas nous parler de design thinking. Alors, juste avant de parler de design thinking, rappelle-nous un petit peu qui tu es en quelques mots.
Alors, bonjour Frédéric, et puis bonjour à vous qui nous regardez. Je suis donc Emmanuel Brunet, j'ai 40 ans. Je suis le cofondateur de l'Institut du Design Thinking. En fait, j'étais chef de projet pour des grosses boîtes, pour des startups aussi. Et je découvre le design thinking en 2014. J'étais un chef de projet un peu classique. Et je découvre le design thinking en 2014 et je me dis, waouh, ça, c'est quelque chose qui va révolutionner ma manière de travailler, ma manière de travailler. Et puis forcément, ça va faire ricocher aussi sur les personnes avec qui je travaille. Et donc, je mets en place ce design thinking sans parler de design thinking, sans parler d'intelligence collective. Petit à petit, outil par outil, on fait des petits ateliers, etc. Et je vois que ça fonctionne super bien. Je customise mes outils, j'en supprime certains qui ne me vont pas moi personnellement. Et puis je teste. Et puis je vois que ça marche aussi très bien pour éviter toutes les situations un peu compliquées d'une entreprise parce que on n'est plus en train de parler des problèmes des personnes, on est en train de parler des problèmes en eux-mêmes. Et puis sinon, je suis aussi l'auteur de la boîte à outils du design thinking aux éditions Dino, qui est là. Très belle aventure, 194 pages et 67 outils qui vont vous permettre d'utiliser le design thinking et surtout de le comprendre.
Bah
Voilà
justement,
pour ma présentation.
là c'est une très bonne introduction. Tu nous as fait un petit teaser en disant que ça permettait de résoudre des problèmes qui sont souvent liés aux personnes ou faire avancer des projets qui sont un peu au point mort. Alors dis-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que le design thinking? Qu'est-ce que c'est cette méthode? Et en quoi elle est différente en fait des approches traditionnelles de gestion de projet?
En fait, avant d'écrire mon bouquin, je t'aurais dit, le design thinking, c'est une méthode, c'est un processus pour faire de l'innovation centrée sur
Le client,
l'utilisateur
l'utilisateur.
final ou aussi les collaborateurs qui vont devoir mettre en place ce process. Mais en fait, plus je rencontrais de gens, plus je faisais des interviews et plus en fait l'état d'esprit, et pour moi c'est d'abord ça, c'est d'abord un état d'esprit avant d'être un processus. C'est un état d'esprit innovant et positif. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui permet d'avoir un consensus de groupe sans forcément faire des réunions qui servent à rien, faire des réunions qui vont mener à pas grand-chose. En fait, on est constamment dans l'action et on est en train de faire plutôt que de parler. C'est aussi
Alors
une
justement,
démarche.
est-ce que tu peux donner un petit exemple parce que c'est que tu l'as fait comme moi, ces réunions post-it où on fait un brainstorm et on colle au mur. Quelle est la
Ouais, c'est pas que ça.
différence avec justement le design thinking en mode action, comme tu dis?
Exact. Alors là, ce dont tu me parles, c'est plutôt la partie brainstorming, c'est la partie idéation. Le design thinking, c'est pas que poser des post-it. Heureusement d'ailleurs, c'est aussi une première phase qui s'appelle l'immersion et l'empathie. Et c'est toute une série d'outils très simples à utiliser qui vont vous permettre d'aller rencontrer soit vos utilisateurs, soit les clients, soit d'aller comprendre comment réagissent aussi les collaborateurs avec qui vous travaillez sur un process qui, par exemple, ne fonctionnait pas. On l'a pensé, puis en fait, c'était peut-être trop en silo. C'est venu de la direction, puis la direction, elle n'est pas sur le terrain. Donc, aller rencontrer ces personnes sur le terrain, aller être aussi, par exemple, en immersion pendant une heure, une journée, une semaine, pour aller vraiment comprendre le quotidien des personnes qui vont devoir utiliser ce
Ce produit ou
processus
ce service, ouais.
ou ce nouveau service ou ce nouveau produit, ça va changer complètement en fait votre manière d'appréhender le problème. Ça va vous créer une vraie empathie et vous allez plus travailler en fait pour des statistiques. C'est-à-dire de la data, on a X% de femmes, par exemple, dans notre base de données de clients. Ça, c'est une data, ça ne crée pas beaucoup d'empathie. Et on va plutôt amener les gens vers créer des personas, créer une vraie
Comprendre les besoins,
synergie.
comprendre les problèmes, leur
Exactement.
quotidien, qu'est-ce qui les freine, et finalement trouver peut-être d'autres solutions plus créatives que ce qu'on avait pensé initialement, quoi. Ou alors se dire, ma solution, finalement, ce n'est pas ce qu'ils veulent.
Exactement. Il y a plein d'exemples comme ça où on découvre en fait que les entreprises partent avec un prérequis, quelque chose qui est soi-disant normal et classique comme idée. Et en fait, on découvre que plus on va rencontrer les gens, plus notre solution va être différente. Pourquoi ? Parce qu'on arrête de penser pour soi avec sa propre expérience et on va cumuler toutes les expériences des personnes que l'on va rencontrer.
Donc, ça, c'est la première étape où on va se mettre en position d'apathie. Après, je crois qu'il y a 4-5 étapes. Alors, c'est quoi un petit peu la suite ?
L'étape suivante, c'est l'étape d'analyse. Une fois qu'on a rencontré, qu'on s'est immergé dans cet univers-là, on va analyser, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ressortir des grosses priorités et puis aussi faire en sorte que l'équipe qui va gérer ce design thinking au sein de l'entreprise ou du service soit au courant de tout ce qui a été découvert, de toutes les informations que l'on a grappillées un petit peu partout sur ces interviews, sur ces sondages par exemple, ou cette immersion. Ça, c'est la deuxième partie, c'est la phase analyse et on en ressort avec des priorités. 2, 3, 5. Pas énormément en fait parce que…
Ouais, je suis d'accord avec toi parce que le problème, moi j'ai déjà vécu il n'y a pas longtemps, j'ai sorti une application mobile et au départ, quand tu as un concept qui est faible, tu as tendance à rajouter des choses en mode couteau suisse en disant tiens, mais il faudrait rajouter ça, alors qu'au contraire, il faut dire non, mais quelle est l'idée ou les deux idées majeures que je dois mettre dedans et je dois pousser un maximum et je dois servir un maximum et je dois m'assurer que 80% des gens, enfin la majorité des gens ont un vrai intérêt et sont prêts à payer pour ça.
Complètement. L'idée, c'est surtout de ne pas partir dans tous les sens. On sait que notre groupe est incapable de tout faire en même temps. On l'a tous vécu, des multi-priorités, ça ne fait pas avancer le projet à la bonne vitesse. Et d'avoir juste quelques priorités, déjà, c'est important et ça permet de faire une version 1. Ce ne sera pas une top version, ce ne sera pas peut-être la version finale, mais au moins, ce sera déjà une bonne version puisqu'on aura déjà gérer les 2, 3, 4 grosses priorités. L'intérêt du design thinking aussi, c'est que c'est le groupe qui fait le design thinking, donc dans l'entreprise, le service, qui a raison. C'est-à-dire que c'est le groupe qui va voter pour les priorités. Ça ne vient plus directement de la direction ou du chef de service, etc. C'est le groupe, en son âme et conscience, parce qu'il a envie que le produit ou le service, ou le processus avance, qui va voter de manière assez transparente et anonyme pour ses priorités. Donc, le fait de voter, ça permet d'arrêter toutes les engueulades de réunion où en fait, c'est le groupe qui a raison et la majorité et plus seulement les personnes qui sont le plus haut hiérarchiquement, qui ont peut-être une vision différente. Et on enlève aussi tous les rapports de force un petit peu diplomatiques, un petit peu compliqués avec des personnes qui parlent plus fort que les autres et qui arrivent à s'imposer alors que d'autres ne s'imposent pas forcément.
Alors, est-ce que tu n'as pas peur que justement il y ait en fin de rumeur un nivellement vers le bas et que les gens ne cèdent pas un petit peu la facilité en disant on va faire un truc simple, on ne va pas s'embêter, des choses comme ça. Parce que souvent, en fait, c'est le problème du consensus. C'est qu'on arrive en fait à quelque chose, le consensus mou au lieu d'avoir un consensus fort et un parti pris fort.
En fait, dans ton groupe, tu vas réussir à équilibrer tout ça. Tu vas forcément avoir des personnes qui, au départ, parce qu'elles n'ont pas confiance dans la méthode, parce que c'est peut-être la première fois qu'ils l'ont testée, vont se dire « je vais peut-être pas donner le maximum de moi-même, je vais déjà la tester ». En fait, ça s'appelle la confiance créative. C'est-à-dire qu'une fois que les gens sont convaincus par les outils qu'ils vont utiliser, forcément, ils vont se dire bah, « là, on va aller au maximum de ce qu'on peut ». Moi, je conseille toujours aux personnes qui nous écoutent de commencer avec un petit projet, quelque chose de très simple, juste pour montrer l'intérêt du design thinking et de ne pas se lancer dans quelque chose de trop fort d'un coup. Comme c'est un changement d'état d'esprit, c'est une vraie transformation aussi au sein des entreprises. Ce serait dommage de faire quelque chose de trop haut, trop compliqué et que les attentes soient un petit peu différentes et les résultats surtout. Okay. Ensuite, la troisième phase, c'est la phase d'idéation. C'est là le brainstorming. En fait, quand on est un chef de projet, on a tendance à commencer un brainstorming très rapidement. Sans les deux premières phases, c'est-à-dire l'immersion et l'empathie et l'analyse, forcément, notre brainstorming, comme je vous le disais, il va être représentatif de nous. Une fois qu'on a fait cette fameuse phase d'immersion et d'empathie, ben, nos idées vont être complètement différentes parce que pendant ces interviews, les personnes que l'on va interviewer vont aussi nous proposer des idées par rapport à leur propre expérience. Si ça se trouve, elles ont découvert des choses à l'étranger que nous, on ne connaissait pas. Une sorte de benchmarking, en fait. Et donc, on va améliorer le nombre d'idées, on va multiplier ce nombre d'idées, on va faire travailler aussi l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire réfléchir les participants sur les idées des autres. Et donc, ça fera de meilleures idées, encore plus pointues et encore plus fines. Et puis, comme d'habitude, sur cette phase, on termine par une priorisation des bonnes idées. Qu'est-ce qu'une bonne idée ? Quel est notre objectif ? Et qu'est-ce qu'on va prototyper dans la phase suivante ? Ça peut être 5, 10, 40, 50 idées. Là, l'idée, c'est d'en avoir beaucoup, 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 beaucoup pour pouvoir éviter de se tromper pour plus tard.
Ouais, enfin, un peu comme dans les méthodes de gross hacking où tu arrives en fait à lister un certain nombre d'idées et ensuite tu les classes avec un ordre de priorité. Enfin, moi, j'utilise la méthode ICE, mais je pense que toi, tu utilises d'autres méthodes ou des méthodologies.
Alors, il y a quelque chose qui est très simple et pour tout le monde. On peut faire de la gométocratie. J'adore ce mot. C'est la démocratie par gommette. En fait, on peut donner un nombre de gommettes à chaque personne et leur dire, ben voilà, vous avez 5 gommettes, vous votez pour vos 5 idées préférées. On peut aussi avoir deux couleurs de gommettes, c'est-à-dire, admettons, le bleu pour une idée qu'on va pouvoir mettre en place maintenant et puis du rouge pour une idée pour plus tard. Et ça commence déjà à créer un plan d'action, en fait, sans le savoir. Des choses extrêmement rapides, faciles à mettre en œuvre, auxquelles on n'aurait peut-être même pas pensé, mais on se dit, tiens, effectivement, c'est... Pourquoi on n'a pas pensé à ça? Ça arrive très souvent.
Et ouais, c'est puis, ce que moi j'appelle les quick wins. Quand j'utilise la méthode ICE, tu vois, je fais comme ça ce foisonnement d'idées. Et ensuite, bah, j'ai trois notes. En fait, j'ai l'impact sur le business, j'ai le coût et l'envie de le faire. Et tu mets une note sur 10. Et c'est vrai que dedans, si tu prends uniquement ces notes-là, tu dis merde, il manque des petits trucs. Et pourtant, tu as souvent des quick wins. Et en fait, ça, c'est des trucs que tu dis, on le met tout de suite, ce n'est pas la peine de réfléchir, tac, tu mets
bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est tellement facile à mettre en place. Et surtout, en fait, les personnes qui vivent cette session design thinking se disent, en fait, on a validé des idées à une vitesse assez incroyable, alors que chez nous, d'habitude, il nous faut un temps pas possible. J'ai eu un client, une grande administration récemment. Je les ai fait réfléchir et prototyper. Donc ça, c'est la phase juste après, on va en parler. Je les ai fait prototyper quelque chose en 40 minutes. Et à leur direction, qui est venue à la fin voir un petit peu comment ça s'était passé et voir ce qu'ils avaient prototypé, ils ont dit, en fait, avec Emmanuel, on a découvert en 40 minutes que l'on se trompait, alors que d'habitude, il nous faut 40 mois. Ça fait réfléchir, hein.
Bon, je ne te demanderai pas le nom de l'administration ni le produit, non, mais en tout cas…
mais c'est pareil, en fait, pour toutes les entreprises où je vais, on découvre que même sur un atelier qui dure une journée ou deux jours, les gens se rendent très vite compte que leur seule manière de penser n'est pas suffisante. Et que travailler en silo en ne faisant jamais d'interview du client, de l'utilisateur final, ben forcément, à chaque fois, il y a un moment où il y a un gros point d'interrogation et tout le monde se dit, mais est-ce qu'on a été dans la bonne direction ?
Ouais, mais c'est vrai que moi, quand j'ai sorti un produit il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé par avoir une idée qui venait justement de la direction. Mmh. Et après, j'ai fait une dizaine d'interviews, une quinzaine d'interviews avec des clients. Et donc, ben, comme tu disais toi-même, hein, j'ai commencé à présenter un petit peu le concept. Et ensuite, j'ai pensé plutôt possible une maquette, comme tu le dis là. Enfin, on y arrive juste après, avec un outil de prototypage qui s'appelle Just In Mind. Mm-hmm. Il y a même d'autres outils d'Adobe, etc. Et pour les faire réagir et faire évoluer au fur et à mesure la maquette au niveau des différences. Mais bon, je te laisse continuer la méthode, la vraie méthode.
Donc, le prototypage, on y va en version quick and dirty, c'est-à-dire on ne va pas dépenser beaucoup d'argent sur les tout premiers prototypes. Ce qu'on veut, c'est avoir un POC, une proof of concept, une preuve du concept. Ce n'est pas grave si c'est juste fait avec des bouts de ficelle, des post-it qui correspondent aux différents écrans d'une appli sur téléphone mobile, par exemple. Ce n'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est juste pour pouvoir. Ce qu'on veut, c'est juste le montrer à notre direction, à la personne qui va valider le projet à la fin. Ça peut être un client final, mais ça peut être aussi les utilisateurs qui vont vraiment utiliser notre appli à la fin. En ne dépensant pas beaucoup sur ces premiers prototypes et en les améliorant au fur et à mesure des interviews, des rencontres et des retours clients, forcément, on va aller vers une solution qui est la meilleure possible à la fin, sans avoir dépensé du design de manière trop forte au départ, du design via des agences par exemple. Ça n'empêche pas de mettre un designer à l'intérieur de notre équipe de design thinking dès le départ, parce que comme on sait qu'on a une équipe multidisciplinaire, c'est-à-dire un designer, des personnes qui vont par exemple des commerciaux, des stagiaires, des chefs de projet, des personnes qui vont utiliser notre solution à la fin, etc. Cette idée de pluridisciplinarité, elle est extrêmement importante aussi dans le design thinking. On n'en a pas parlé, mais ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. D'accord. Puisqu'on va cumuler en fait les expériences différentes et les besoins différents. Et les gens vont s'accorder aussi, ce fameux consensus fort, en se disant, par exemple sur le prototypage, moi, j'ai telle contrainte. Est-ce que tout le monde est au courant de cette contrainte? Et en fait, on remarque que les gens, comme ils travaillent en silo, ils ne sont pas au courant des contraintes des personnes qui viennent, par exemple, juste avant ou juste après dans un processus ou un parcours. Et comme tout le monde va s'accorder sur les contraintes de tout le monde, forcément, ça va créer une meilleure empathie aussi à l'intérieur de l'équipe.
D'accord. Alors là, c'était la phase prototypage.
Prototypage.
Donc, juste pour le prototypage, donc tu m'as dit que tu utilisais parfois juste des post-it ou des choses comme ça. Est-ce que tu utilises d'autres outils comme je disais, moi, j'utilisais Just in Mind, des outils prototypes, mm-hmm. l'impression 3D. Est-ce que tu as quelques outils à nous conseiller là-dessus?
Alors, si vous faites une appli sur téléphone mobile, il y a Marvel App, qui est une application gratuite où en fait, il suffit juste de dessiner ces écrans, même à la main, de manière un peu grossière. Et via l'application Marvel, on prend en photo et on va dessiner les petits boutons. C'est-à-dire que sur notre écran, on va dire le petit bouton, il est là et il amène vers telle autre page. Et en fait, ça va faire comme une appli, mais en fait, elle est juste dessinée et la plupart des gens font une appli en un quart d'heure. Et ça permet juste d'avoir un cheminement étape par étape de si on clique sur ce bouton-là, on va là. Si on clique sur ce bouton-là, ça nous amène à telle étape. Et donc, plutôt que d'avoir dépensé des centaines de milliers d'euros pour déjà proposer une solution quasiment clé en main, on y va par étapes. Sinon, il y a Balsamic aussi pour des sites internet. Les Lego, ça marche aussi très bien. Si on a un projet d'architecture, par exemple, en imaginant une nouvelle boutique, un nouvel espace, ça marche aussi pour les cantines, pour des bureaux. En fait, le design thinking, ça marche pour plein de choses. C'est vraiment extrêmement large. Et puis sinon, si vous avez un produit aussi à réaliser, vous pouvez aller dans un atelier ou dans un Fab Lab qui va vous proposer d'utiliser des machines pour réaliser d'abord peut-être un prototype en plastique ou en bois avant d'utiliser des matières définitives juste pour aller tester auprès d'utilisateurs la forme, l'ergonomie. Ça sert à rien d'avoir un moule qui va vous coûter des milliers d'euros si vous n'avez pas validé déjà cette ergonomie finale.
Ouais, c'est ce qu'on faisait. Nous, en fait, quand je bossais dans une boîte qui vendait des produits en grande distribution et en distribution spécialisée, on faisait des packaging avec une boîte où on collait dessus des visuels qu'on avait créés. Et c'était juste créer un faux visuel et tu pouvais tester comme ça des visuels en focus group et des choses comme ça. Enfin, bref.
Oui, ça, on le fait aussi. On l'a fait récemment sur des boîtes de céréales. On vendait un produit qui n'avait rien à voir avec les céréales, mais c'était notre prototype. Et puis, on avait fait une couverture par-dessus, juste un visuel. Et ça nous a coûté trois fois rien, quoi, des feutres et du papier. Quoi.
Voilà. Donc là, on est à la partie prototypage. Qu'est-ce qui se passe juste après, Charles?
Alors, le juste après, c'est l'implémentation. L'implémentation, bah, c'est le plan d'action de ce qui va se passer après. Admettons que vous avez validé votre prototype auprès de votre direction, de vos clients, etc. Qui fait quoi? Quelle est la structure et quel est le montant des investissements que l'on va réaliser? Est-ce qu'il y a de la com? À quel moment on lance la com? À quel moment on fait du marketing? Comment le prototypage, le produit final est réalisé? Avec qui? Avec quel partenaire? Là, c'est vraiment le moment où ben, on a validé et on avance. Et on va le mettre sur le marché. C'est toute cette partie implémentation. Si vous faites une formation design thinking, moi, je vous conseille vraiment de faire attention à vérifier qu'il y a bien cette partie implémentation. Pourquoi? Parce que en général, si dans les formations, il n'y a pas cette partie implémentation, la formation s'arrête à partir du moment où le formateur quitte la salle. Pourquoi? Parce que les gens ne se sont pas projetés dans les semaines à venir. Et comme on est en train de faire un plan d'action, forcément, chacun est en train de se dire bah, « moi, mon plan d'action, c'est de faire ça par rapport à ce que l'on a développé ». Si vous vous arrêtez au prototypage, en général, l'action de formation, elle marche moyen-moyen parce que il y a tout un état d'esprit à avoir qui se développe avec l'implémentation.
Donc, le groupe est toujours présent ou le groupe se voit moins souvent parce que pendant un moment, donc, ils sont vraiment soudés, ils travaillent en équipe pluridisciplinaire. Et lors de cette phase en fait, de lancement, donc c'est toujours les mêmes équipes, d'autres équipes il y a...
Alors, moi, je conseille vraiment d'avoir un noyau dur qui est de 6 à 8 personnes qui vont être l'équipe qui fait le design thinking. Ça n'empêche pas de rajouter des gens qui vont venir ponctuellement sur toute notre phase, toutes nos phases de design thinking. Par exemple, on pourrait faire venir d'autres collaborateurs de la direction ou des clients sur l'idéation, par exemple, sur la partie brainstorming. En fait, voilà, un noyau dur et autant de personnes que nécessaire en fonction des agendas de tout le monde et puis des phases que l'on veut ajouter. Par exemple, sur un prototypage, dans votre entreprise, il pourrait y avoir une personne qui est extrêmement spécifique et qui est extrêmement bonne sur une partie du prototypage parce qu'elle sait travailler le bois ou des choses comme ça, par exemple. On ne la ferait pas venir sur toutes les phases parce qu'elle n'est pas disponible, mais on la ferait venir juste sur la partie bois et prototypage.
D'accord. Alors là, on a vu la démarche globale. Est-ce que tu nous peux donner un exemple, bien sûr, sans citer de marque, mais avec ces cinq étapes-là, en disant, ben voilà, première étape, on avait fait ci, deuxième étape, on avait fait ça, troisième étape, on avait fait ça, pour donner vraiment un aspect un peu concret et se dire, waouh, finalement, ça peut servir à tout ou à n'importe quel, à beaucoup de sujets.
Alors, je vais te donner deux exemples. Avec Médecins Sans Frontières, on a travaillé sur comment faire en sorte que les formations qui sont données aux médecins qui arrivent sur des zones de guerre ou des zones de risque sanitaire peuvent être faites. Des formations, comment est-ce que ces formations au jour le jour peuvent être utiles pour les médecins qui sont donc sur ces zones de guerre, ils n'ont peut-être pas d'internet, ils sont peut-être dans des moments un petit peu compliqués. Comment est-ce qu'on leur transmet de l'information et comment est-ce qu'on continue à les former? Et donc, on a fait un atelier pendant 2 jours avec des gens qui réalisaient les formations en interne de Médecins Sans Frontières et puis aussi des personnes qui ont eu déjà accès à ces formations dans les mois précédents. Et on les a fait se rencontrer parce que c'était une nécessité. En fait, il y a peu de retours pour savoir si les formations fonctionnent. Et en fait, on a découvert que les gens qui avaient déjà eu ces formations avaient la solution la plus profonde sur l'avenir de ces formations et comment est-ce que réellement elles allaient être utilisées sur les zones de conflit, dans des vraies conditions. Donc, eux, ils avaient l'expérience de la vraie condition. Un autre exemple, on a travaillé avec le Grenelle contre les violences conjugales la préfecture de Seine-Saint-Denis, où, en design thinking, on a fait se rencontrer les acteurs de la protection de ces femmes victimes de violences conjugales. Donc, sujet très d'actualité, aussi très compliqué parce que là, on est vraiment dans l'empathie et on est vraiment dans l'urgence. Et en fait, on a fait donc se rencontrer des avocats, des personnes qui travaillent dans les associations qui recueillent les femmes, des infirmiers, des médecins, des pompiers, des magistrats. Toutes ces personnes qui arrivent sur le parcours en fait de ces femmes et de ces enfants aussi victimes de violences, qui ont chacun dans leur expérience des bonnes pratiques, et on a voulu partager en fait ces bonnes pratiques et repenser tout le processus d'accueil de ces femmes victimes de violences conjugales. On a fait trois ateliers de trois heures, dédiés à ce sujet. Et les priorités et le nouveau parcours a été présenté visiblement au ministre en charge du sujet. Voilà, maintenant il n'y a plus.
Donc il y a eu cet aspect, comme tu l'as dit, le premier atelier où il y avait l'empathie, savoir mm-hmm. comment ça fonctionnait, c'est pas le sujet, mais qu'est-ce qui se passait? Ce qui allait bien, ce qui allait pas bien, le point de vue des pompiers, des juristes et tout ça. Donc, Exactement. Ça, c'est la partie phase de compréhension. Mm-hmm. Les besoins, on observe, on écoute, on pose des questions. Ensuite, tu as eu ta deuxième phase qui était l'analyse.
Exactement. L'analyse, en fait. Ouais. Où on a réussi à sortir les vraies priorités. Parce que c'est vrai que quand on fait venir, par exemple, une centaine de personnes, tout le monde a une priorité qui est différente dans sa tête. Mais en fait, on remarque que très rapidement, avec les bons outils, les gens se disent « Ok, on a 3-4 priorités, ce sont celles-là les plus importantes. »
D'accord, avec ce système de vote dont tu as parlé.
Exactement. Et puis, ensuite, on les a fait réfléchir avec des priorités, on les a fait réfléchir à des idées. On ne les a pas fait réfléchir sur n'importe quelles idées, on les a fait réfléchir seulement sur les priorités.
Ça, c'est la phase numéro 3, l'idéation.
Exactement, l'idéation. Et puis, on les a fait prototyper, imaginer un nouveau parcours, tous ensemble, pour que chacun aussi puisse expliquer les contraintes qu'il avait par rapport à son métier, que les autres ne connaissent pas. Et puis, on leur a proposé aussi d'implémenter. Alors là, ce n'est pas eux qui allaient l'implémenter directement puisque ça allait passer par d'autres arcanes. Mais on leur a proposé aussi de créer un plan d'action avec des choses à mettre en place très vite, là maintenant. Vraie urgence, pas trop de budget, facile à faire.
Ouais, qui même des choses... peuvent le faire de manière individuelle ou au sein de leur association, des choses comme ça.
Exactement. Et puis, des choses avec lesquelles on a besoin de l'État et puis des services et des pouvoirs.
Ouais, des choses plus longues. Tu parlais de ce fameux quick win que je mets en place de mon côté et qui montre que le groupe a fait quelque chose, que ça donne de l'action et que ça donne immédiatement des résultats parce que les gens se disent « Ah, enfin, j'ai fait un truc où ça donne quelque chose de concret. »
Ouais, complètement.
Parce que je pense que tu es comme moi, tu as déjà vu toutes ces réunions annuelles où tu pars avec ton service et tu réfléchis sur des sujets et oh oui c'est très bien, il faudrait révolutionner des trucs et puis on rentre au bureau puis on repart sur le train habituel et rien n'a changé.
Il se passe rien, exactement. Le brainstorming où on s'enferme tous dans une grande boîte qui s'appelle une salle de réunion pour aller réfléchir tous ensemble à l'oral, ça marche pas trop trop bien parce que en fait il y a toujours un jeu de pouvoir. C'est globalement celui qui a raison, c'est toujours soit le directeur, soit celui qui va crier le plus fort et qui va imposer un peu sa loi. Avec le design thinking, ça permet que tout le monde ait la même part de voix. Et ça, c'est génial parce que ça implique les collaborateurs vraiment dans le projet. C'est-à-dire que si dès le départ, tu bloques la créativité parce que très rapidement, tu dis aux gens… Ah ben non, ça c'est pas une bonne idée pour telle raison, et puis ça on l'a déjà fait à la compta, ça n'a pas marché, et puis ça non. En fait, les gens ils vont proposer une, deux idées, et puis très rapidement ils vont se taire, quoi, parce qu'ils en ont marre de se faire.
Justement, tu tombes bien. Donc, dans les erreurs en fait à ne pas commettre, donc la première chose c'est juger. Donc en fait, c'est comme on dit, comme dans une réunion de brainstorming ou des choses comme ça, on va pas dire il y a pas de bonne ou de mauvaise idée, il y a que des idées, donc tu vas les lister même si ça va pas. Donc quelles sont les autres erreurs à éviter quand tu fais du design thinking?
Alors la première, c'est déjà squeezer un peu trop vite les deux premières phases. Naturellement, on va passer vers l'idéation, alors que non, il faut prendre du temps vraiment pour aller en profondeur et rencontrer nos utilisateurs. Comme je le disais, les entreprises ont toujours l'impression de connaître leurs utilisateurs parce qu'elles ont de la data. Mais en fait, la data, ça ne crée pas l'empathie. La data, c'est un chiffre. mais ça n'explique pas exactement l'utilisation et ce que ressentent les gens, quelles émotions ils ont quand ils utilisent leurs produits, leurs services, etc. Et au lieu de travailler pour des chiffres, on va travailler pour des gens. Et ça, ça change toute notre manière de travailler.
Je suis d'accord avec toi. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, tu vois, on bossait avec un de nos fournisseurs. Et puis, en fait, il nous disait, non, mais de toute façon, nous, on fait des enquêtes de satisfaction. Mm-hmm. Et il nous disait, mais non, mais de toute façon, la priorité, c'est ça. Et tu fais une enquête et tu vois, mais non, mais les clients, ils nous disent qu'ils se plaignent de la facturation. Mais les gens disent, ouais, mais la facturation, c'est comme ça. T'es sûr vraiment, ça me paraît clair. Et en fait, on se rend compte que les gens trouvaient de la facturation compliquée, que ce n'était pas simple. Ils préféraient qu'on travaille là-dessus, sur ce point de détail, que sur d'autres trucs qu'on disait, mais le client ne nous attendait pas en fait.
Oui, complètement. Quand on dit que le client est roi, c'est peut-être pas pour rien. Je dis pas qu'il a raison à chaque fois. Mais en tout cas, il y a ces fameux quick wins là sur lesquels on peut travailler très rapidement et chaque processus en fait peut être amélioré. On a l'impression que ce n'est pas toujours le cas, qu'on est parfois au top. Mais en fait, quand on gratte un tout petit peu, on sait qu'on pourrait gagner 3 minutes sur telle procédure, 3 000 euros sur une autre. Voilà, ce genre de choses qui permettraient de faciliter la vie des collaborateurs et puis pourquoi pas à terme les clients. Je te donne une deuxième erreur à pas connaître. Si vous formez des collaborateurs, ne formez pas qu'une seule personne. Parce que comme c'est un état d'esprit, ça ne fonctionnera pas. L'idée, c'est vraiment de former soit un service, soit un maximum de collaborateurs pour que cet état d'esprit soit délivré dans toute l'entreprise. Et c'est pour ça que ça doit aussi être poussé par la direction. Il est déjà arrivé que des participants à une de mes formations, 2 mois plus tard, je reviens vers eux et ils me disent on n'a rien mis en place. Et j'en fais pourquoi ? Parce que ça n'a pas été poussé par la direction et nous, on est constamment ensuite.
Il y a le quotidien.
Quand la formation s'arrête, on reprend les dossiers habituels et comme c'est une transformation des entreprises, il faut vraiment que la direction, le chef de service, pousse aussi pour que. Pousse en toute douceur, pour que ce nouvel état d'esprit, cette nouvelle façon de travailler, avec des vitesses différentes aussi, c'est une vitesse complètement différente, puisse se propager de manière plus facile. Forcément, si vous êtes tout seul à travailler en design thinking, alors que tout autour de vous, vous avez des gens qui travaillent à des vitesses différentes, ils vont vous prendre pour un alien et ils vont vous demander de. Enfin, ça n'ira pas. Donc, un service et poussé par une direction, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est ce qui ressort le plus, en fait, c'est vraiment l'accompagnement de la direction et ne pas squeezer les deux premières phases. Ouais, c'est les deux erreurs à ne pas faire.
D'accord. Alors, justement, si on veut en savoir plus et savoir comment mettre en place dans son entreprise et évangéliser sur le design thinking et donc faire en sorte que ça remplace les réunions traditionnelles, de brainstorm, etc., comment on fait ?
Alors déjà, on me contacte. donc, l'Institut du Design Thinking est là pour vous aider, que ce soit sur des formations, des conférences, mettre en place aussi des ateliers d'intelligence collective, de la facilitation. On peut vous aider aussi à faciliter les choses. La deuxième chose aussi, c'est d'être curieux, d'aller regarder sur Internet ce qui se passe à propos du design thinking, pourquoi pas d'ailleurs de lire
mon livre, qui
La boîte à outils du design thinking 26,50 €. Voilà, c'est d'être curieux de se dire que notre entreprise en 2020 a besoin d'être transformée, quoi qu'il arrive, ne serait-ce que pour le bien-être de nos collaborateurs. Améliorer des process en interne, c'est déjà gagner la partie sur le design thinking et ça marche très très bien.
D'accord. Merci pour tout. Donc, ton site internet, est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse ?
institut-design-thinking.com et sinon, vous avez notre LinkedIn et notre Instagram. C'est toujours Institut du Design Thinking.
Ok. Merci, Manuel.
Merci, Frédéric. À très vite.